Bon, bonsoir à tous. Donc, avant d'ouvrir la séance du conseil municipal, je voudrais déjà vous remercier tous pour vos messages de soutien pendant ma convalescence. Je n'ai probablement pas pu répondre à tout le monde, mais sans faire de jeu de mots, croyez-moi, ça fait chaud au cœur. Donc, c'était avec vraiment beaucoup d'émotion que j'ai lu vos messages. Avant également d'ouvrir le conseil municipal, je voudrais qu'on se lève et qu'on ait une minute de silence pour Denise Carrier, ancienne conseillère municipale et surtout une bénévole de tout fond. Merci pour elle. Procède à l'appel. Donc, Jackie Sommeil, Vanessa Savini, Jean-Pierre Monnet, Myriam Charabasi, Gisèle Jeunin, absente, pouvoir à Vanessa Savini, Raymond Baudin, Jean-Pierre Marion, Francine Arrigoni, Firmin Lopez, Pierre Bluna, Béatrice Rozan, René Roja, Nicolino Tonnambé, absent, pouvoir René Roja, Patricia Morgado, Renaud Mélinon, Bérangère Champon, va peut-être nous rejoindre, mais elle nous a laissé un pouvoir à Raymond Baudin, Anne-Cécile Germain, Delphine Raymond Allongue, Delphine n'est pas arrivée non plus. Véronique Bérard, Alexandre Luxos, Nicolas Bossupica, Eric Silvestrini, Christine Curto, Daniel Mancip, Cécile Gaillard et Cécile Bissillon, donc notre nouvelle conseillère municipale, mais qui est absente, qui est retenue par les obligations professionnelles. Je voudrais commencer par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 septembre 2024. Bien sûr, je ne prendrai pas part au vote puisque j'étais absent. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous propose de désigner Nicolas Bossupica comme secrétaire de séance, toujours le plus jeune à l'Assemblée. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, on va démarrer par la délibération 2024-61, donc, qui est le contrat de concession, l'approbation donc du compte rendu annuel du contrat de concession. Donc, comme l'oblige la loi, la concession à Avinay a été transférée au 1er février 2018. Donc, aujourd'hui, les pronoms, donc GEG Greenalp, se doivent de nous faire un contrat d'annuaire au titre des travaux neufs, à titre de l'exploitation, au titre des fournitures aux clients et bénéficiaires, et à titre des relations avec les clients. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à nos amis de GEG Rhône-Alpes qui vont se partager la présentation pour nous faire cette présentation du contrat de concession. Ce que je propose, c'est qu'on les laisse peut-être faire leur présentation et qu'on fasse après le temps de questions dans un deuxième temps avec eux. Voilà. Donc, je laisse la parole à nos amis de GEG Rhône-Alpes.
C'est bon, ça marche. Ça y est, ça marche? Non?
C'est bon, ça marche.
Bien, donc les chiffres clés de la concession qui évoluent à la marge, hein, on ne multiplie pas par deux le nombre de kilomètres de réseau. Donc on a 42 kilomètres de réseau HTA, hein, on l'a déjà dit, hein, c'est un peu les autoroutes. Et puis à l'échelle d'un quartier, on trouve la. Alors là, vraiment, j'ai cru qu'il y avait une coupure. Donc 110 km à peu près de réseau basse tension et de branchement. Le point qui évolue et qu'on voit évoluer depuis quelques années, donc c'est les installations de production d'énergie. Alors en général, c'est plutôt des petits producteurs photovoltaïques, donc avec 71 installations contre 52 l'année dernière. On a également 55 postes de transformation de distribution publique, 12 postes clients. Et ben voilà, on a environ 2 millions, 2 600 clients, un petit peu plus de 2 600 clients. Alors c'est le nombre moyen de contrats dans l'année, ben parce que ça évolue, hein. Il y a des clients qui se désabonnent, d'autres qui viennent prendre un abonnement. Donc voilà, c'est le nombre moyen dans l'année. La valeur nette des actifs de la concession qui est à 4 millions 130 000 euros. Et les ventes en acheminement pour 28 gigawattheures, ce qui est à peu près stable d'une année sur l'autre. Sur la qualité de service, donc par contre là cette année on a une dégradation hein, sur la qualité de service, donc on le voit par le taux moyen de coupure client. Donc en fait c'est un temps moyen. Donc là aussi, il y a certains clients qui ont pu voir une coupure, d'autres qui en ont vu des plus longues que les 31 minutes annoncées. Donc c'est vraiment un temps moyen qui est représentatif de l'ensemble. Alors pourquoi ce temps de coupure s'est dégradé d'une année sur l'autre? Eh bien parce qu'en 2023, on a eu trois incidents sur le réseau HTA. Et ces incidents, ben, ils vont concerner un nombre important de clients. C'est-à-dire que si on a un incident sur un réseau basse tension, ben, ça va peut-être concerner une trentaine de clients. Dès que on a sur le réseau HTA, ben, on parle plutôt en centaines de clients. Et donc l'impact est plus important sur ce taux moyen de coupure. Alors, quels sont ces incidents que l'on a répertoriés? Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, on en a eu trois. Un défaut sur une tête de câble dans un poste HTA. Par contre, le 4 mai, là, c'est quelque chose qui est finalement extérieur au réseau, hein, puisque ça a été un accrochage d'un câble HTA par une entreprise de travaux publics. Et le 23 juin, on a eu une chute d'arbre sur la ligne aérienne de la Gonardière. Donc ces trois incidents ont fait dégrader donc le temps moyen de coupure. Et également un incident en basse tension bah, sur un coffret basse tension, mais là l'impact est beaucoup plus faible. On a aussi dans le temps de moyen de coupure, hein, il y a la partie incident, mais aussi la partie travaux. Donc on le verra tout à l'heure sur la partie investissement. On a quand même réalisé pas mal de travaux en 2023. Et certains de ces travaux, ben, malheureusement, nécessitent une coupure des clients pour pouvoir raccorder, pour pouvoir rénover, mettre en service le nouveau réseau. Donc ça a été le cas sur la montée Peney, les coteaux de Lérinet, et puis exactement autour du poste Renouveau, donc de la restructuration de réseau basse tension.
Bon, bah, moi je prends le relais. Bon, comme on l'a entendu là, côté travaux, effectivement, il y a eu des actions et des aménagements concertés sur la partie du quartier du Sabot, avec un co-enfouissement des réseaux d'eau et assainissement, aussi le réseau télécom. Pour nous, ça a été l'occasion aussi donc de faire du renforcement d'ouvrage et également pouvoir aussi enfouir toutes ces lignes aériennes. Voilà. Donc effectivement, toutes ces bascules ben, génèrent des interruptions d'énergie pour pouvoir basculer les ouvrages. Voilà, on a fait de la maintenance de poteaux bois qui bah, se dégrade avec le temps, avec les pivers aussi. Voilà, du remplacement d'équipements dans la taillure des postes Et 2023, ça a été aussi donc une dynamique de raccordement des producteurs sur le périmètre de Vinay, avec des industriels qui couvrent leur toit et des clients aussi particuliers qui mettent en place des panneaux pour de l'autoconsommation. On peut passer donc la dernière ligne, elle est plutôt en lien avec 2024. On reviendra tout de suite après, mais on a sur 2024, 2023, donc on avait commencé la pose des compteurs communicants, mais on verra à la fin de ce PowerPoint où on en est à l'heure actuelle. Donc les prévisions sur 2024, donc c'est ce qu'on avait imaginé en 2023 pour la commune. Aujourd'hui, on est quand même sur plus de raccordements. On est vraiment sur des travaux pour raccorder les clients. On est moins sur des travaux, on va dire, d'investissement sur du renforcement ou d'extension de réseau. Avec dans cette fin d'année, on a attaqué plusieurs aménagements. On voyait la première ligne Chemin des Gorges. Le projet immobilier ne démarre pas. On a attaqué en concertation avec la commune, l'impasse Expilly, qui n'est pas donc indiquée ici, mais du coup, on répercute un tout petit peu le budget sur ces voies annexes. On a commencé tout ce qui est étude donc des raccordements de la gendarmerie et effectivement, il y avait dans le projet donc le raccordement d'une centrale de production qui a été réalisée par le groupe GEG vers l'autoroute et qui aujourd'hui est raccordée. Au niveau de 2024, donc le prestataire, quoi, Greenalp, via son prestataire Parera, s'était engagé à poser en masse les compteurs communicants sur la commune de Vinay. Il a démarré donc cette pose un tout petit peu en décalé par rapport au programme qui avait été donné de juillet. Il l'a attaqué plutôt à août-septembre pour éviter d'avoir des gens absents pendant les périodes estivales. Et on va dire que l'objectif à la fin du mois va être atteint. Voilà. Exception de tous les cas très compliqués, toutes les installations qui sont trop vétustes pour qu'un prestataire intervienne, on va dire, en aspect, on va dire, simple, une pose simple. Ils interviennent en sécurité, même nous, mais les opérations, les actes de travaux sous tension, typiquement, c'est des choses qu'on n'autorise pas. On garde bien cette compétence à notre main.
Voilà, bilan on revient sur les investissements qui ont été réalisés en 2023. Donc vous voyez qu'on a investi 500, un petit peu plus de 500 000 euros sur le réseau de la commune, ce qui est très important. Ces investissements, ils sont portés d'abord en partie par les raccordements. On a parlé qu'il y avait des évolutions importantes sur les raccordements de producteurs. On a parlé du raccordement de la centrale de production HTA, des batteries, hein, proche de l'autoroute. Donc voilà, pour des raccordements pour 124 000 euros. Et puis toute une partie de renforcement. Qui est porté par plusieurs chantiers, hein. On en a pour 390 000 euros, avec en grande partie des ouvrages sur la montée Peney, hein, qu'on retrouve dans le bas du tableau, là, 250, enfin, il y avait quelques autres chantiers, mais pour 240 000 euros, et puis le renforcement du quartier BT dans le quartier du Sabot pour 95 000 euros. Voilà. Donc un montant de 500 000 euros qui est, je crois, le montant le plus important qu'on ait fait sur la commune depuis le début de la concession. Le compte de résultat vu du gestionnaire de réseau. Donc côté vente, donc on a une marge électricité qui est à peu près stable, hein. On avait vu que la quantité acheminée était stable d'une année sur l'autre, donc on trouve à peu près cette stabilité dans la marge électricité. Par contre, ce qui a évolué, c'est donc les productions vendues et immobilisées, hein, au regard des investissements importants que l'on avait fait en 2023. Donc on sort avec une production de l'exercice à un petit peu plus de 1100 kilo-euros. Chaque fois, je le doute, savoir si je me trompe de colonne ou pas. Hein. Donc, 2023 est bien à gauche. Et puis, côté production de l'exercice, donc, comme on est à passer un petit peu plus de temps sur les travaux, donc on retrouve ça dans toute la partie matériel consommable, charges externes, et puis également les charges de personnel. Contribution au fonds de péréquation est stable. La redevance de concession donc est à 60 000 euros, stable aussi hein, puisque les ventes en acheminement sont stables. Ce qui nous fait donc un résultat d'exploitation légèrement plus important que celui de 2022, donc à 478 000 euros, pour un résultat net donc à 344 000. Qui, vous voyez, de toute manière, ne couvre pas les investissements qui sont réalisés.
Alors, y a-t-il des questions sur le réseau? Non? S'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner sur la fourniture alors. Donc, sur la fourniture au tarif réglementé. Donc, pour la fourniture au tarif réglementé, donc, les pouvoirs publics font deux mouvements tarifaires donc, en 2023. Donc, il y a toujours deux dates. Il y a toujours le 1er février et le 1er août. Donc, en 2023, au vu des augmentations, on était en pleine crise tarifaire sur l'énergie. Donc, les tarifs réglementés ont augmenté de 15% donc, au 1er février 2023. Et plus 10% au 1er août. Donc, les pouvoirs publics, je rappelle, ont mis en place un bouclier tarifaire justement pour limiter ces augmentations. Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, pour les ménages les plus précaires, ils ont mis aussi un dispositif de chèque énergie. Donc, pour la concession de Vinay, on a traité 639 chèques pour un montant de 107 055 euros. Donc, c'est un montant qui augmente chaque année et on les traite et on aide justement toutes ces. Et c'est un devoir pour nous, en tant que GEG, de traiter cette population et de les aider à mieux gérer leur budget énergie. Concernant les volumes, donc, on était en 2022 à 15 millions de kilowattheures. Et en 2023, 13 millions. Ça, cette baisse est due à des petits professionnels qui ont dû aller sur le marché parce qu'ils avaient l'obligation de basculer leur contrat sur de l'offre de marché. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette baisse. Et puis aussi, il y a eu l'effet de prix d'augmentation de l'électricité et un effet de sobriété. Les gens, on a eu des retours où les gens se sont moins chauffés et aussi des degrés par rapport à ça qui ont fait que il y a eu une diminution aussi de consommation. Donc pour l'année 2023, donc sur la concession, il y a 1564 clients qui sont en mensualisé, 420 qui sont en prélèvement, donc sur une population totale de 2603 contrat en TRV, là c'est que des contrats en tarif réglementé de vente, donc qui fait un taux qui est de mensualisé qui est très important et qui est bien pour la concession et pour nous aussi de 60%. Alors les ventes, les ventes d'électricité sont à 2 950 000, les achats à 2 509 000, donc qui ont augmenté du fait du prix de l'électricité. Les subventions d'exploitation donc étaient négatives en 2022, c'était du fait du prix de l'électricité, du fait que les obligations d'achat, en fin de compte, c'est un système, c'est que Face à la crise, vous savez, par rapport aux tous les photovoltaïques, ils avaient un prix, nous on devait racheter à un prix d'électricité. Mais le marché était tellement élevé que c'était l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on achetait moins cher que le marché. Donc on se faisait plus compenser, donc on faisait des provisions. Et c'est pour ça que vous avez un chiffre négatif. Et en 2023, les ventes d'électricité, les prix de l'énergie ont baissé. Donc on s'est retrouvé dans un montant de subvention, justement, positif à 144 000 euros. C'est pour ça que vous voyez d'un côté les prix négatifs et d'un côté les prix positifs. Donc pour arriver à une marge d'électricité à 585 000 euros contre 256 000 l'année dernière. Donc pour une production d'électricité, qui est une production vendue qui est stable, donc on est à 666 000 pour l'année 2023 contre 2022 à 329. Ensuite, bien sûr, c'est les achats consommables, donc c'est le papier, c'est par rapport à l'agence de Vinet qui est 26 rue Grande Rue, donc avec ses achats son personnel, ses petits achats de papeterie, et puis ses dotations de matériel informatique interne. Donc on arrive à un résultat d'exploitation à 495 000, un résultat de un impôt sur les sociétés de 127 000, pour arriver à, et bien sûr une participation des salariés, pour arriver à un résultat net de 364 000 contre 129 000 pour 2022. Alors je vous ai rajouté bien sûr 2-3 slides pour parler un peu, parce que ça vous intéresse, l'évolution des tarifs réglementés pour 2024 et 2025. Alors pour 2024, on a bien sûr eu une augmentation au 1er février, mais cette augmentation du 1er février a été faite uniquement sur les taxes. C'est-à-dire que le bouclier tarifaire en 2022 a été fait, c'était qu'avant on avait 23 euros du mégawattheure, une taxe qui faisait ce bouclier tarifaire. Et pour faire ce bouclier tarifaire, on a diminué à 1 euro du mégawattheure cette taxe. Donc ça a couvert pour prendre en charge cette augmentation justement de l'électricité. Et du fait que début 2023, les prix de marché ont baissé, donc le législateur est passé donc de 1 euro du mégawattheure à 21 euros du mégawattheure. C'est ça qui a fait cette augmentation. Donc là, on parle bien d'une augmentation de 9,5%, mais c'est TTC sur les clients en moyenne, donc, et 8,6% en moyenne sur les clients en base et 9,8% sur les clients qui ont heure creuse, heure pleine. Donc voilà, et donc pour le 1er août, le législateur et vous savez que le 1er août, il y avait les Jeux Olympiques, il y a eu pas mal de changements, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, donc il n'y a pas eu d'augmentation. La CRE avait proposé une augmentation de 1% par rapport à l'augmentation du tarif d'utilisation du réseau, et ça a été rebooté parce qu'il n'y avait personne déjà pour le voter, donc on a dit « bon, bah, pas de taxes ». Pas d'augmentation des TRV, donc pour 2024, on n'a pas eu d'augmentation pour le mois d'août. Et les prévisions pour le 1er février 2025, c'est une baisse des tarifs de 9%, parce que le marché de l'électricité continue à baisser, et que dans les calculs des tarifs réglementés que la CRE calcule, on a toujours un décalage. Et donc, par rapport à ce décalage, on arrive maintenant à une diminution. Et donc, normalement, on devrait arriver à 9% avec une augmentation légère, parce que ça coûte encore à l'État le bouclier tarifaire, donc on risque d'augmenter de 2-3 euros. Bien sûr, vous avez entendu, mais ça a été renoncé, parce qu'il y avait une augmentation de la TVA sur l'abonnement qui devait passer de 20% à 5,5%, donc ça a été abandonné. Et aussi de monter, à un moment, j'ai recherché aussi les ressources, justement sur l'assise, de passer de 21 euros à 51 euros du mégawattheure. Donc là aussi, ça a été annulé. Donc je vous mets tout le temps ce petit graphique pour voir l'évolution de votre facture d'électricité pour un prix moyen, c'est-à-dire que un simple tarif, donc la colonne bleue, c'est un simple tarif 6 kW qui a une consommation de 2482, et puis le orange, c'est un double tarif 6 kW, donc heure creuse avec 1464 kW, et puis 2928 en heure pleine. Et donc on voit qu'on était en 2021 à 520 € pour un simple tarif, et on arrive à 777, donc on voit qu'il y a quand même eu une augmentation notable. Voilà, j'ai essayé d'être le plus pédagogique possible. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'étais clair ? Ben merci.
Pas de questions ? Non. Ben merci, c'est que vous avez été très clair et très... Ah, si, Raymond. Ben merci beaucoup pour cette présentation. Bon, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur la présentation qu'on vient d'avoir de la part de GEG Greenalp, à part que notre électricité, même en tarif régulé, n'arrête pas d'augmenter, mais ça n'était pas un scoop. Après... avec la nébuleuse des tarifications, il y a de quoi en sourire, sur les tarifs négatifs en particulier. Je suis vice-président du SPABLA, donc du syndicat qui traite l'assainissement dans la Drôme, du Royan Drôme et du Royan Isère. Et c'est vrai que la nuit, on nous paye pour consommer l'électricité. Donc c'est assez surréaliste. On nous payait, est-ce que c'est fini, mais... Voilà, enfin, voilà, ça existe. J'ai découvert ça. C'est des choses assez formidables. Donc, s'il n'y a pas de questions, bien sûr, il faut que je mette aux voix là, pour l'approbation de ce compte rendu, de ce contrat de concession. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions ? Qui est contre ? Merci. Je passe à la délibération. Donc, 2024-62, c'est l'acquisition de plein droit d'un bien vacant 100 mètres par la commune de Vinay. Donc c'est un bien qui est cadastré AD 156, qui est situé 23 cours de la Libération à Vinay. Alors, cette délibération arrive un petit peu comme ça, assez rapidement, on n'a pas eu le temps de trop en débattre. C'est les services fiscaux qui nous ont alertés, qui nous ont demandé d'accélérer le processus. Donc c'est si vous avez vu sur la photo, c'est le bâtiment qui est à côté du garage Garnier, qui avait fait l'objet d'un arrêté de péril par la commune en 2018 ou 2019, enfin, j'ai plus exactement les dates, la procédure n'a pas été menée jusqu'à son terme. Et aujourd'hui, les services fiscaux nous font remarquer que par rapport aux procédures, il y a la possibilité d'acquérir ce bien dans le cadre de la procédure de bien vacant 100 mètres. Donc pour ça, on doit délibérer. Il y a une estimation qui a été faite par les services des domaines à hauteur de 30 000 euros. Ça, c'est uniquement pour l'estimation comptable pour rentrer dans notre inventaire. Donc, on rentre une somme positive et négative en recettes et en dépenses. Donc, c'est transparent. Donc, aujourd'hui, c'est une proposition de se rendre propriétaire de ce bien, à titre gratuit, hein, bien sûr. Afin de lever ce désordre qui perdure depuis maintenant presque 30 ans. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette procédure et sur le fait que la commune sera propriétaire gratuitement de ce bien ?
Ça ne marche pas mieux, si. Moi, la procédure de bien 100 mètres, je la maîtrise assez bien. Par contre, est-ce qu'ils ont fait une recherche au niveau des héritiers ?
Oui, c'est pour ça que c'est les services fiscaux en fait qui nous ont qu'on fait toute la démarche.
Ils ont bien le tableau comme quoi ils ont fait la recherche.
De toute manière, c'est là où on va. La procédure, c'est que la première étape, hein, parce que la deuxième étape, il va falloir que je prenne un arrêté. Ensuite, il y aura la partie publicité. Et effectivement, on peut avoir encore. Pour l'instant, les services fiscaux, voilà, en sont à ce stade-là. Quoi.
D'accord, pas de souci. Mais je voulais juste savoir si la recherche généalogique avait été faite.
Oui. D'autres questions ? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. La délibération 2024-63, c'est l'acquisition d'une partie de la parcelle AK-175 située avenue Joseph Sachigneux appartenant au conseil départemental de l'Isère au profit de la commune. Donc, on avait, il me semble, déjà délibéré sur ce sujet. Donc, vous retrouverez le plan dans la délibération 64, hein, c'est le même plan. Hein. En fait, c'est la partie où il y avait l'ancien CER, donc pour les plus anciens, l'ancienne DDE. Et ça, pour notre ami Raymond, ça lui fera plaisir. Donc, voilà, et depuis, ils ont fermé. Donc, le centre d'entretien routier donc, du département a été déménagé au niveau du giratoire de l'autoroute, à côté des pompiers. Donc, aujourd'hui, on s'est porté acquéreur pour cette parcelle. Il y avait une première estimation de surface qui était définie à 1 555 m² pour un prix à 60 000 euros. Quand on a travaillé avec les services du département et fait intervenir le géomètre pour borner et recalibrer un petit peu les choses, s'avère qu'il y a 270 m² de plus, ce qui fait au prorata, du coup, qui augmente le coût à 70 000 euros d'acquisition. Voilà, donc je vous propose qu'on maintienne notre acquisition pour 70 000 euros. Donc c'est le parking provisoire aujourd'hui qu'on a mis en place, où les démolitions des bâtiments ont été mises. Et le département va réhabiliter, puisqu'il garde la propriété des anciens bureaux, va réhabiliter où il y a la PMI aujourd'hui, sera réhabilité. Des questions ? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Donc la délibération 64, c'est toujours dans le même secteur. Donc c'est juste à côté donc, de ce que va garder le département, là, ce que je viens de dire, la PMI. Et entre aujourd'hui la PMI et le futur sentier de l'école qu'on est en train de construire. Il y a un petit reliquat de terrain de 123 mètres carrés. Et pour donner un petit peu d'esthétique aussi au secteur, puisque nous, on va démolir le mur aujourd'hui pour aller à l'école, et pour avoir la continuité et agrandir un petit peu, donner un peu d'aisance pour les enfants de la PMI, il est proposé de céder les 123 mètres carrés de reliquat entre nos cheminements et la PMI à l'euro symbolique au département. Est-ce qu'il y a des questions pour cette petite bout de parcelle? Donc s'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On est toujours donc avec la délibération 65, c'est acquisition d'une partie de parcelle AK 186 appartenant au conseil départemental au profit de la commune de Vinay dans le cadre d'un projet de cheminement piéton découpe cadastrale de la parcelle AK 183. Donc là, c'est dans le cadre du... Alors, ça va de pair avec la parcelle, la délibération 66. Hein. Je vous propose de commenter les deux en même temps. Lorsque le collège était propriété à l'époque du CIGEC, donc qui était un syndicat intercommunal, lorsqu'il y a eu la transfert de compétences et que les départements ont pris la compétence au niveau des collèges, le collège a été transféré au département. Mais les parcelles d'assiettes du collège n'ont jamais été régularisées, ça est resté en l'état. Aujourd'hui, quand on a construit le gymnase et qu'on a retravaillé les aménagements, les cheminements piétons en particulier derrière le gymnase, donc entre le gymnase et le collège, donc nous on était chez nous puisque le transfert n'a jamais eu lieu, donc il a été vu également d'améliorer ce cheminement et d'aller devant la salle de sportif du qu'appartient au département qui a été construite il y a 7-8 ans et cette parcelle appartenait au département. Donc pour avoir une continuité de cheminement piéton, il y avait besoin, donc c'est la délibération 65, où on a besoin de récupérer 138 mètres carrés pour pouvoir avoir la continuité du cheminement piéton et le devant de cette salle, ce qui permet de partir de la future bibliothèque, de passer derrière le nouveau gymnase, de longer devant la salle d'évolution du département et de remonter après en direction de la pharmacie ou du Champ de Mars. Donc ça, c'est cette partie-là. Donc c'est une proposition de récupérer cette parcelle de 264 mètres carrés pour l'euro symbolique. Et en contrepartie, d'aller au bout de ce qui n'a jamais été fait depuis le transfert de compétences, c'est de rétrocéder au département l'ensemble des parcelles sur lesquelles... Aujourd'hui, le collège est construit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va commencer par la délibération 65. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie de cheminement piéton, en particulier devant la salle d'évolution du département? Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et la délibération 2024-66, donc pour la régularisation et le transfert de parcelles pour l'assiette du collège. Pareil, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La délibération 2024-67, c'est pareil, c'est toujours des régulations. Donc là, je demanderai à Nicolas Bossupica de ne pas prendre part ni au vote ni aux échanges. Donc c'est une régularisation de parcelles entre la commune de Vinay et M. Bossupica Nicolas. Donc c'est une petite arlésienne ce dossier, puisqu'il y a eu une première délibération qui avait été faite en 2004, il me semble. Ensuite, il y a eu une autre délibération qui a été faite en 2019, donc par la commune de Vinay, pour faire un échange donc, entre un chemin qui passait devant la propriété Bossupica, qui était échangé pour être reporté un peu plus loin dans la parcelle, pour alimenter les propriétés riveraines. Donc ce déplacement a eu lieu, mais les actes n'ont jamais été jusqu'au bout, malgré les deux délibérations. Du coup, aujourd'hui, on est obligé de redélibérer pour pouvoir enfin régularisée pour être, on va dire, conforme à ce qui existe aujourd'hui sur le terrain. Est-ce qu'il y a des questions sur cet échange entre la commune et la propriété Boussupica ? Régularisation qui date depuis, malheureusement. Donc la première fois, c'était 2008, et ensuite, c'était 2019. Donc on sera à la troisième délibération. J'espère que cette fois, on ira au bout, que nos successeurs ne redélibéreront pas dans 10 ans. Donc s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Eh ben, je laisse la parole à Jean-Pierre Monnet pour la suite.
C'est une demande de subvention un arbre, un habitant en Isère pour le parking du collège et du gymnase. Donc, on souhaite réaliser un projet d'implantation d'arbres en milieu urbain répondant aux enjeux de changement climatique. Le projet prévoit, vous l'avez vu, on l'a vu en commission, les travaux près du CER. Et puis du gymnase et puis le parking du collège. Donc le projet prévoit sur le dernier trimestre 2024 la plantation de 20 arbres, de désimperméabilisation d'environ 200 m² de surface actuellement en enrobé ou en béton qui sera réengazonné. Donc on a droit à une subvention sur les 24 959 euros de travaux hors taxes. On a le droit à 50%, donc 12 479. Donc voilà, je pense que on peut mettre au vote. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que tout le monde est d'accord pour cette demande ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. C'est encore une demande de subvention, cette fois pour les travaux aux dégâts des orages qu'il y a eu le 25 juin. Donc il y a eu un orage violent, vous le savez tous. Donc la commune a fait l'objet d'un rapport du RTM du 22 juillet 2024. Donc il y a eu une grosse érosion et un ravinement important du chemin des Bauches qui ont rendu impraticable ce chemin jusqu'à la départementale RD 1092, un glissement de terrain, route de Maillossière. Donc nous on a assuré le déblaiement et la sécurisation de la partie basse, le curage du chenal, le curage de la route de Maillossière et la reprise du chemin des Bauches. Le coût des travaux est de 18 860 euros hors taxes. Et au titre de la DETR, on peut demander deux subventions. Donc une à la DETR, à l'État, de 4 715 euros, qui correspond à 25%, et une autre de 9 430 euros, qui correspond à 50% du montant des travaux. Donc on ne va pas se priver si on peut toucher ces subventions. Qui est contre, qui s'abstient. Merci.
Là, je voudrais quand même apporter une remarque et surtout un remerciement à l'entreprise Carré TP qui est intervenue dès le soir même et le lendemain pour aller dégager en particulier la maison qui se trouvait au pied du chemin des Bauches qui a été vraiment énormément impactée hein, puisque l'eau a traversé la maison et tout s'est déposé autour de la maison sur le côté. Donc vraiment, merci à l'entreprise CARTP de sa réactivité. Je pense que ça fait vraiment du bien d'avoir des réactivités comme ça dans ces moments-là. Oui, oui, oui. Ça, effectivement, en ces moments-là, on sait retrouver nos valeurs rurales et la solidarité s'applique.
Il y avait les services techniques Vino aussi.
Il y avait aussi les services techniques Vino, effectivement, le maire et les adjoints. c'est à moi, à nouveau. oui, donc la délibération... Ah, pardon.
Si, on a voté.
Si, j'ai pris la parole après. Contre.
Il a repris la parole après.
Parce que j'ai repris la parole. C'est moi qui ai mis le bazar. la délibération 2024-70, c'est la constitution d'une commission des affaires foncières de la commune pour l'examen du suivi des dossiers domaniaux de la commune. Donc, en fait, on a, suite aux différentes constructions qu'on a faites récemment, donc en particulier le gymnase, ça libère un certain nombre de bâtiments particulier les arcades. On va avoir la gendarmerie dans le cadre de la construction de la gendarmerie. On a l'ancienne caserne des pompiers donc, qui est aussi libérée. On a le hangar de Yamaha, où il y avait Yamaha qui a été libéré aussi. Tous ces ténements donc, vont être mis à la vente. Donc, je propose qu'on s'appuie sur les membres de la commission d'appel d'offres pour créer une commission qui travaillera sur un, peut-être établir un cahier des charges sur certains bâtiments qu'on voudrait mettre à la vente, et deux, lorsque les offres arriveraient, qu'on puisse avoir une analyse dans le cadre de cette commission. Donc la proposition, c'est qu'on prenne les membres de la commission d'appel d'offres et qu'on les intègre dans une nouvelle fonction sur l'examen, puisqu'on est un peu sur, comme un appel d'offres, hein, sur ces futures ventes qui vont arriver. Donc est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition ? Pas de questions, je vais au vote. Donc qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Ben, je laisse la parole à l'adjointe au fil.
Alors, la prochaine délibération, la 71, vise à valider l'intérêt de notre candidature dans le cadre d'un appel à projet acté sur le fonds Chêne. Donc, en fait, le programme acté vise à aider les collectivités à mutualiser leurs actions et simplement à agir à long terme et à planifier surtout des travaux de rénovation énergétique afin de réduire notre facture d'énergie. Mais ce fonds vise également à faciliter le développement des projets d'efficacité énergétique, mais aussi de substitution d'énergie fossile par des systèmes énergétiques qui soient efficaces, et puis également travailler autour du développement des énergies renouvelables et puis de récupération pour nos bâtiments publics. Donc c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, la commune souhaite bénéficier et rentrer dans le cadre de cet appel à projet pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc celle-ci se fera en lien avec la commune de Saint-Marcellin, pour lequel la commune indiquée sera coordinatrice. Le fonds Chêne permettra de bénéficier d'une aide au financement sur 5 postes qui vont être essentiels, à savoir les ressources humaines, donc gagner et avoir une subvention qui prendra en charge à hauteur de 40% un économe de flux. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on a une personne sur ce poste-là. Eh bien, à terme, ce serait un financement sur ce poste à hauteur de 40%. Faire l'acquisition d'un logiciel de suivi des consommations énergétiques. Donc on aurait droit à 50% du coût de mise en place, mais également une aide sur différentes études. Donc le montant global de l'aide sollicitée serait à hauteur de 36 933 euros sur un coût global qui était estimé à 88 033 euros. Aujourd'hui, on a déposé un dossier de candidature mutualisé avec Saint-Marcellin. On devait le faire fin septembre et la désignation des lauréats est attendue sur cette fin d'année. Donc aujourd'hui, on se devait de mettre en valeur cette délibération parce que c'est pas rien. Ça va quand même représenter, si nous sommes lauréats, eh bien une économie sur ces différents coûts. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Juste un petit rappel pour tout le monde. Vous savez que le directeur de Neuvinet Chaleur-Bois est partagé avec Saint-Marcellin. Donc, il est également directeur de la chaufferie de Saint-Marcellin. Donc, c'est pour ça qu'on est sur un dossier commun entre les deux villes, parce que sur cette partie-là, on travaille vraiment en synergie avec les deux communes pour avoir une optimisation sur les coûts et sur en particulier RH, puisqu'on partage le directeur sur ce poste de direction et de mise en place des économies. Alors, petite précision, essayez d'allumer vos micros pour parler. C'est juste pas pour qu'on vous entende forcément mieux, parce qu'il y en a qui ont des grosses voix comme moi, mais c'est pour qu'on puisse enregistrer. C'est beaucoup plus facile pour nos agents pour le compte rendu.
Je voulais juste demander si c'était une mutualisation de 50-50, c'est tout.
Oui, on est à 50-50.
Pas de questions supplémentaires, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Eh bien, je continue avec la délibération suivante, la numéro 72, sur l'attribution de bons d'achat de fin d'année au personnel et à leurs enfants. Donc, on avait, on était déjà dans ce cadre-là. Hein. Aujourd'hui, tous nos agents ainsi que leurs enfants bénéficient d'un bon d'achat. Cette délibération marque juste un petit changement, c'est-à-dire qu'on l'ouvre toujours aux agents en position d'activité ou en congé parental, aux titulaires ainsi qu'aux stagiaires, mais sur les bénéficiaires contractuels, on leur faisait bénéficier de ces bons sur des contrats à partir de 4 mois. Aujourd'hui, on rabaisse à 2 mois. Pour que ces bons d'achat soient distribués au maximum d'agents, dont les petits contrats. Et puis également, on continue à les distribuer aux élèves stagiaires de plus de 2 mois. Et puis on invite également tous les agents à l'arbre de Noël. Voilà, donc c'est simplement une petite modification. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Donc maintenant, c'est une convention de mise à disposition des annexes du château de Montvinet à titre gratuit au profit de l'équipe cynophile de la gendarmerie nationale. Donc cette mise à disposition permettra aux équipes de la gendarmerie d'avoir un espace dédié pour l'entraînement et la préparation des chiens dans le cadre de leur mission et de sécurité publique. Les annexes concernées, situées dans l'enceinte du château de Montvinet, sont particulièrement adaptées aux besoins de l'équipe cynophile de la gendarmerie pour la formation et l'entraînement des chiens. La convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction. Mais je crois que Philippe, tu voulais dire quelque chose plus précis par rapport à ça, parce que tu connais le dossier.
Certains d'entre vous m'ont fait remarquer que la convention n'était pas top. Alors évidemment, c'est des conventions type de gendarmerie, je ne commenterai pas forcément tout. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment une mise à disposition pour un entraînement, donc ils viennent quelques heures par semaine, et pas toutes les semaines. Entre autres, ils vont cacher soit un peu de drogue, soit un peu d'argent ou éventuellement pour entraîner les chiens. Ils rentrent, les chiens font leur travail avec les maîtres chiens, et ils repartent. C'est-à-dire que c'est pas du tout ni du logement. Ils vont pas loger ici. Ils viennent faire une séance d'entraînement sur une demi-journée ou sur une journée en fonction des exercices, et après ils repartent. Bon, moi je trouvais qu'il est toujours intéressant d'avoir des bonnes relations avec la gendarmerie. Après, il est vrai que c'est pas les champions du monde sur la rédaction des conventions. Comme nos amis les pompiers, on a les mêmes conventions quand on les prête des locaux pour faire des manœuvres. Bon, néanmoins, je pense qu'on peut leur faire confiance pour qu'ils nous tiennent correctement les locaux pour entraîner leurs chiens à leurs différentes missions. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet.
Attends, vas-y. Je t'en prie. Tu as le micro branché.
Il n'est pas libre
encore. Okay. Celui qui a le micro branché parle.
Non, moi j'avais une question. Est-ce qu'il est intelligent, ou je ne sais pas si on peut dire intelligent, mais subtil, de mélanger à la fois des entraînements canins de gendarmerie avec cette volonté qu'avait jusqu'à aujourd'hui le conseil municipal d'ouvrir le parc à l'ensemble des Vinois au niveau de la promenade? Est-ce que c'est judicieux que les deux soient? Est-ce que surtout c'est compatible au niveau sécuritaire?
Oui, bah là, eux, ils vont juste. C'est dans les bâtiments. Hein, et nous, les bâtiments ne vont pas être ouverts à la visite des gens. Hein. Donc là, ça sera uniquement. Après, eux, quand ils font ce genre d'exercice, ils tirent un bout de rubalise. Donc au niveau du portail, il y aura sûrement un bout de rubalise pour éviter que les gens ils se mélangent au milieu. Et on n'est que sur des chiens qui font de la recherche. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des chiens d'attaque. Hein. Donc il n'y a pas de danger.
Voilà, je voulais juste. Voilà.
C'est comme. Enfin, moi, j'ai travaillé énormément avec cette partie cynophile. Voilà. plutôt au niveau pompier, où on recherchait des humains, mais c'est pas des chiens d'attaque, c'est des chiens de recherche. Puis eux, ils sécuriseront la zone, et on n'est que sur la zone intérieure du bâtiment. Donc à l'intérieur de la cour, donc il est très facile d'isoler pour pas qu'il y ait de public qui se promène dans la cour.
Ok.
Non, la remarque qu'on avait faite là, c'était juste parce que deux paragraphes l'un sur l'autre sont contradictoires, c'est pour ça.
Oui, ce que je dis. Voilà. Hein, moi aujourd'hui, je mettrai pas d'énergie. C'est soit on dit non, soit on dit oui, mais je mettrai pas d'énergie à discuter avec la gendarmerie pour faire modifier une convention. Ou quand on modifie quelque chose avec eux, je vous rappelle, j'ai mis presque 8 mois ou 6 mois pour négocier une ligne sur le bail de la future gendarmerie avec le preneur. Et on a dû aller en direct avec le directeur de Bercy. Donc, on dit oui, on dit non, mais je ne vais pas dans la discussion avec eux pour modifier le... Mais ça ne me dérange pas qu'on dise non. Hein. Mais je ne vais pas aller me battre là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette convention? Donc, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Encore Jean-Pierre.
Allez, signature de la convention relative à la création et à la gestion d'une nouvelle boucle cyclotouriste sur la commune de Vinay. Donc il y avait des boucles cyclotouristes sur Vinay, enfin qui passaient sur Vinay et qui étaient. Donc il y avait deux boucles jusqu'à maintenant et ils en créent 6 nouvelles cartographiées dans l'annexe. Donc ça va intéresser Raymond qui est en train de regarder justement les boucles cyclotouristes. Donc en fait, nous, on est traversé par la boucle numéro 4 et du coup, on doit signer une convention avec eux. Voilà, mais ça serait intéressant que la prochaine fois, je vous amène peut-être les circuits réels. Enfin, on les voit, mais on les voit pas très bien sur les schémas qui sont en vélo. Ouais, c'est des circuits vélo. Cyclotouristes, hein. Voilà. Donc les boucles ont été changées et du coup on est obligé de re-signer une convention avec eux parce qu'il y a une boucle qui passe à Vinay. D'ailleurs la boucle est pas mal puisqu'elle fait le tour, je pense qu'elle passe au-dessous de Notre-Dame-de-Lozier, Vatilieu, Cernerpol, d'après ce que j'ai vu, elle redescend sur Varacieux, Quincieux, elle fait le tour sur Saint-Marcelin et elle revient je pense. Voilà. Donc ça fait 54 km et nous on a elle emprunte la boucle de 1,5 km de la voirie communale de Vinay. Voilà. Qui est contre? Comment?
Non.
Oui, alors ils demandent de mettre des panneaux, justement. Eux vont peut-être mettre des panneaux, peut-être, hein, des panneaux. Voilà, donc ils nous demandent, si jamais ils mettent des panneaux, d'être OK là-dessus.
Comment? Jean-Pierre, moi je voulais savoir, ça engage en quoi, en dehors du fait de leur donner... d'accepter.
Rien, l'autorisation.
Ça engage en quoi? Quel est le...
Rien, l'autorisation de mettre des panneaux, en fait.
C'est tout.
Eux, ils vont flécher.
Au niveau de la circulation, voilà, ça ne change rien. Au niveau de la responsabilité la commune, ça n'engage rien de plus.
Ils sont obligés parce qu'ils passent dans nos nombreuses communes. Et comme c'est quelque chose de fléché par eux, ils sont obligés de nous demander l'autorisation de mettre
Donc en fait, c'est une autorisation de flécher sur le territoire.
Tout à fait. D'accord. Mais nous, ça nous intéresse en tant que cyclotouriste.
Non, mais je n'arrivais pas à comprendre quel était l'intérêt.
Je
ne
connaissais même pas les deux premières boucles. et Raymond non plus, qui est plus ancien que moi encore.
Ok.
Dans le cyclotourisme, je te dis. Excusez-moi.
Une question. Oui. J'aimerais savoir si ces boucles, elles sont documentées par l'Office du tourisme et s'il y a un travail, parce qu'il faut savoir que l'Office du tourisme de la communauté de communes émet des cartes pour les VTT, pour les cyclotouristes. Si c'est documenté, pour savoir si on peut diriger des gens.
Ça m'intéresse aussi de le savoir, en fait.
Ah oui.
Oui, tu réponds oui.
D'accord. Oui, c'est d'ailleurs la communauté de communes est signataire de la convention de la même manière que la commune sur d'autres domaines.
D'accord. Et l'Office du tourisme conséquemment est impliqué aussi.
Oui. Mais ça m'intéresse aussi de le savoir en tant que cyclotouriste dans la région, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui nous demandent en passant, tiens, où est-ce qu'on peut passer par là, et on pourrait leur donner en tant que mairie aussi.
Parce qu'il faut savoir qu'on distribue nous des cartes. Ils nous sont donnés par l'Office du tourisme à tous les cyclistes qui viennent à Vinay.
Non, mais je le découvre un peu, donc on le découvre, donc ça nous intéresse aussi.
À l'occasion, je te passerai une carte.
Tout à fait.
Sachant que c'est des cyclotouristes, c'est pas des VTT, c'est des pistes sur route, cyclo, et pas en forêt.
Cyclo, c'est la route. Hein. Tout à fait.
D'accord. Merci.
Ensuite, on a les deux dernières conventions. Oui, pardon. qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Là, c'est une attribution d'une subvention complémentaire à l'association Mieux Vivre Avinet pour l'organisation du marché du terroir. Donc, c'est voilà, notre ami Daniel qui avait demandé un petit supplément. Donc, on a accordé une subvention supplémentaire de 300 euros à l'association Mieux Vivre Avinet pour l'organisation du marché du terroir qui a lieu.
Une remarque. C'est de la sémantique, mais c'est pas mieux vivre à Vinet, mais si Vinet, mieux vivre.
Vinet, mieux vivre, oui,
tout à fait. Et d'autre part, c'est pas le marché du terroir, c'est le marché d'automne.
Marché d'automne.
Ouais, parce qu'on veut créer une identité propre à Vinet.
D'accord.
On veut pas copier les autres, et si on veut se faire remarquer, il faut rester avec sa personnalité.
Très bien. Merci.
Oui, moi Jean-Pierre, j'aurais bien voulu avoir la raison. En tous les cas, pourquoi on octroie une subvention complémentaire? Si elle est complémentaire, c'est qu'il y en avait déjà eu une au début, au moment des subventions. Et en tout état de cause, nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles on demande une subvention complémentaire. Une subvention auprès des associations, quelle qu'elle soit, doit être justifiée. Et il serait bien qu'on puisse contrôler, et qu'elle soit d'abord justifiée, qu'on puisse contrôler que ça serve bien à ce qui est dit. Parce que là, tu nous présentes ça comme... Pour le marché, je ne sais pas quelles ont été les dépenses supplémentaires qui n'étaient pas demandées dès le début de la première subvention.
Le marché d'automne a augmenté de taille. Enfin, on le verra avec Daniel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'investissement. Alors pour nous aussi, la commune, parce qu'on a
beaucoup plus,
beaucoup par la commune aussi. Tout à fait. Mais aussi pour l'association, parce que ça demande un travail très important de gérer ça. Enfin, cette année, ça a complètement changé de taille, de niveau. Donc il y a beaucoup plus d'exposants, bien qu'il n'y en ait pas tout à fait autant que tu pensais peut-être, Daniel.
Si, il y a eu les 52, j'ai eu cette 52. Question. Alors j'en profite pour apporter la réponse à tout le monde. Il y avait 52 exposants, mais il y avait des exposants qui étaient là le vendredi, qui n'étaient pas là le samedi, d'autres qui étaient le dimanche, qui n'étaient pas là le lundi, et ainsi de suite. Donc il y a eu un roulement. Ce qui visuellement disait, si on les comptait, à un instant T, on n'avait pas les 52 exposants. Voilà. Et d'autre part, il faudrait peut-être préciser qu'avant, la montée du vendredi soir se faisait avec le concours du conseil municipal des enfants. Et à cette occasion-là, la commune de Vinet apportait l'assiette de charcuterie offerte. Voilà. Ce qui explique la compensation.
C'est même complètement ça, en fait. Et, ouais. Par contre, là... J'appelle quand même qu'il y a une plus grande concertation et vigilance sur la communication, puisqu'on s'est retrouvé avec des communications comme quoi le CME était associé, alors que le CME ne pouvait pas être associé. Donc ça, je demande qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus de communication qui ne vienne associer la commune dans des actions sans que la commune soit avisée. C'est-à-dire que ça a été mis sur les affiches sans qu'on l'ait validé. Donc ça, aujourd'hui, ça ne sera pas tolérable. On ne peut pas accepter que des affiches partent sans qu'on nous, on ait validé ce qui est sur l'affiche, si on est cité. Et là, on était cité avec le CME, et l'adjointe aux cultures, à l'école, au scolaire, n'avait pas cette information, et du coup, l'organisation n'a pas pu avoir lieu. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'il y a une compensation, mais on ne pourra pas jouer ce jeu tout le temps comme ça, ce n'est pas possible.
Je peux rajouter quelque chose ? Un marché comme ça, ça se prépare plus d'un an à l'avance, puisqu'on travaille déjà sur celui de 2025. Et donc, on était dans l'attente, on n'avait pas encore la réponse.
Raison de plus, quand on n'a pas la réponse, on ne met pas.
Eh bien, on ne mettra pas, c'est bien.
C'est assez simple, on a la réponse, on met, on n'a pas la réponse, on ne met pas. Donc, là-dessus, je tiens quand même à éclaircir devant tous mes collègues que la commune n'avait pas pu, parce que ce n'était pas possible, et on n'a pas donné la réponse, c'est parce que l'adjointe au scolaire n'avait pas la possibilité de le faire.
J'en suis tout à fait conscient, mais d'autre part, nous, on ne pourra pas mettre de notre côté de prendre les choses en route, une fois qu'elles seront décidées.
Non, peu importe, mais si on n'a pas la réponse, on ne met pas sur les affiches. Donc ça, j'y tiens. Il n'y a pas que ça, et ça on pourra en parler. Bon, donc je laisse Jean-Pierre sur, puisque là c'est
qui est contre, que j'ai pas assisté. Qui s'abstient. Merci. Alors là, c'est les deux dernières conventions concernant la mise à disposition. La première, la mise à disposition, c'est ce qu'on signe chaque année les associations pour l'occupation du domaine public communal par chaque association. Donc Voilà, c'est ce qu'on fait chaque année. Et là, bon, là, je vais vous demander qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et la dernière, c'est la signature de la convention de mise à disposition d'un minibus aux associations. Qui est contre, qui s'abstient. Merci.
Donc, l'ordre du jour est terminé. Avant de lever la séance, donc, normalement, si tout se passe comme prévu, on fera un conseil municipal le 18 décembre et on en profitera pour terminer par un petit moment de convivialité pour fêter la fin d'année et préparer l'arrivée des fêtes. Voilà. Donc, merci à tous. Bonne soirée.